Les grands systèmes unificateurs du Huayen, guirlande de fleurs, et du Tiantai, lotus blanc. Deux écoles de bouddhisme, la terre pure et le Chan, méditation, réussirent à survivre à la persécution du IXe siècle sans trop de dommages. Écoutez le passage, le Jingtu, terre pure, et d'autres écoles dévotionnelles, plus loin dans ce chapitre. Et trois autres, celles du Huayen, du Tiantai et du Mitsung, furent transplantées avec succès à la société japonaise avant de péricliter dans leur pays d'origine. Ce passage se consacre de plus près aux traditions du Mitsung et du Tiantai, qui ont toutes deux élaboré de vastes systèmes philosophiques. Pour en savoir plus sur la tradition Mitsung, écoutez le passage « Le Vajrayana en Inde, en Chine, au Japon et au Tibet », plus loin dans ce chapitre. Alors que le Mahayana se développait en Inde, il donna naissance à toute une série de points de vue, souvent déroutants, qui causèrent la confusion chez les anciens bouddhistes chinois. Pour en apprendre davantage sur le Mahayana en Inde, écoutez le chapitre 4. Plus les Chinois se familiarisaient avec les enseignements bouddhistes, qui les atteignirent morceau par morceau et pas tout d'un coup, plus ils en vinrent à se demander comment ces leçons pouvaient bien s'emboîter les unes avec les autres pour former un tout cohérent. Afin de tirer un sens de toutes ces vues différentes, plusieurs écoles chinoises se formèrent pour essayer d'articuler ces divers enseignements Mahayana autour des principes du sutra, discours bouddhiste, qu'elles préféraient. Le Huayen, guirlande de fleurs. Le sutra de la guirlande de fleurs, Avatamsaka, impressionna tellement les fondateurs de cette école qu'ils le vénérèrent comme le summum de la pensée bouddhiste. Selon eux, le Bouddha prononça ce sutra directement après avoir reçu l'éveil, alors qu'il se trouvait encore sous l'arbre Bodhi. Comme il présentait une version non diluée de l'éveil, affirmait-il, personne à l'époque ne pouvait le comprendre. Dans sa sagesse et sa compassion, le Bouddha n'expliqua alors que ce que les gens pouvaient comprendre, c'est-à-dire les quatre nobles vérités et le reste du canon Theravada. Le Bouddha ne continua à transmettre ses sutras Mahayana avancés qu'après avoir expliqué les enseignements plus fondamentaux. Les maîtres de cette école soutiennent en substance que peu importe ce que le Bouddha a pu enseigner d'autres, c'est le gigantesque sutra de la guirlande de fleurs qui demeure l'expression la plus profonde de ses réalisations ultimes. Selon leurs commentaires, ce sutra enseignait l'interdépendance de toutes les choses dans l'univers. Bien que les choses semblent exister comme des entités séparées et distinctes, par exemple cette table et cette chaise, les êtres ordinaires et les bouddhas, elles s'interpénètrent toutes dans une vaste interaction de forces. Par une contemplation profonde et répétée de ces interactions, il croyait que l'adepte pouvait atteindre la paix ultime. Anecdote. Le Tiantai. C'est l'autre école chinoise qui essaya d'articuler l'ensemble des enseignements du Bouddha en un tout cohérent. Elle reçut pour nom celui de la montagne d'où était issu son fondateur, Qi I, 538 597. Comme la tradition Huayen, l'école Tiantai affirmait que le Bouddha avait d'abord prononcé le sutra de la guirlande de fleurs et qu'ensuite, s'étant rendu compte qu'il était hors de portée de son public, il se mit à prononcer des discours plus faciles à digérer. Pourtant, selon l'école Tiantai, la version finale et la plus explicite de l'intention du Bouddha se trouve dans le sutra du lotus. Ce qui explique pourquoi le Tiantai est aussi connu sous le nom d'école du lotus blanc. Selon le sutra du lotus, le Bouddha n'enseignait pas une doctrine unique à tous ses disciples. Il révélait différents sentiers afin de s'adapter au tempérament et aux facultés de son public. Il a pu enseigner à certaines personnes le sentier du renoncement et de la moralité, c'est-à-dire que la voie qui consiste à se retenir de faire du mal aux autres les mènera au bonheur dans des vies futures. À d'autres, il a pu enseigner que le sentier de la sagesse, de la vision profonde et de la fiction du soi mène à la libération complète du cycle des renaissances. Et à d'autres encore, il a pu enseigner que c'est le sentier de la grande compassion qui mène au service éveillé des autres. Pour en savoir plus sur ces trois sentiers, écoutez respectivement les chapitres 12, 13 et 14. Bien que ces sentiers puissent sembler avoir eu des objectifs différents, le Tiantai soutient que la véritable intention du Bouddha était de mener chacun, de la manière la plus efficace possible, à la destination spirituelle ultime, c'est-à-dire à l'éveil complet de la bouddhéité, état de Bouddha. N'oubliez pas, l'école du Lotus Blanc enseignait aussi que tous les phénomènes de l'univers sont fondamentalement interconnectés. Selon elle, la nature du Bouddha pénètre toute réalité sans exception, et l'on trouve la vérité dans un brin d'herbe aussi sûrement que dans des écritures sacrées. Pour en savoir plus sur la nature du Bouddha, écoutez le chapitre 2. Cette manière intégrée de voir les choses plaisait aux Chinois terre à terre qui avaient le bon sens de la nature et des détails de la vie quotidienne. Au lieu de chercher une alternative spirituelle à l'existence banale, les bouddhistes chinois recherchaient typiquement la dimension spirituelle à l'intérieur du familier, comme on peut le ressentir en contemplant les paysages dépeints avec amour qui sont si typiques de l'art bouddhique chinois. De nombreux musées possèdent d'excellents exemples de tels paysages. Vous pouvez également regarder ces images sur le site web www.chinapage.com/payant.